J'ai commencé à écrire ce livre au mois d'avril 2008, en effet. Mon projet a été déclenché quand je me trouvais à la Villa d'Este. C'est une très grande, très belle hôtel au lac de Côme. Il y a peut-être des gens ici qui le connaissent, peut-être. C'était pour une réunion de banquiers, d'académiciens, des politiciens. C'était une espèce de Davos, si vous permettez, Maurice, au bord du lac de Côme, comme j'ai dit. Et j'étais frappé par le contraste entre la beauté de l'endroit, qui est absolument incroyable, d'un part, et d'autre part, par l'humeur d'angoisse et de peur qui était partout parmi les membres du groupement. Parce que la crise avait déjà commencé, même si ce n'était que 6 mois plus tard qu'on allait voir les pires événements, notamment, naturellement, l'effondrement de Lehman Brothers au mois de septembre 2008. Mais la crise avait commencé. Le tonnerre était là. Et c'était en effet la crise financière la plus sévère depuis les années 20, comme nous le savons maintenant. C'était une crise qui a causé une récession globale, qui a causé le rétrécissement du commerce mondial pour la première fois depuis des années. C'était une crise qui a causé la faillite de plusieurs institutions financières, ou bien a nécessité le sauvetage de ces institutions par des gouvernements en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, etc., etc. C'est une crise qui a causé non seulement, ce n'était pas seulement une crise dans le monde financier, c'était aussi une crise qui a impacté l'économie réelle parmi presque tout le monde. Il a causé une perte d'emploi de millions de gens. Il a causé cet effondrement du confiance que Nicolas a déjà mentionné et qui a posé des questions, de toutes sortes, questions qui sont posées directement par les événements, sur la gestion des risques, par exemple, dans les grandes institutions, sur le système de supervision régulatoire qui a failli contrôler les actions de quelques participants dans le marché. Questions techniques, il y a des leçons techniques sûrement sur les règles de comptabilité, par exemple, sur le rôle joué par les agences de notation, etc., etc. Ce livre n'est pas un livre qui discute les détails de ces leçons au niveau technique, si vous voulez. Parce qu'il y a d'autres questions à un niveau plus profond, et c'est ces questions qui m'intéressent. Le capitalisme, le rôle du marché dans le développement. Est-ce que, pour la première fois depuis 20 ans peut-être, la question du futur du capitalisme est sur la table ? Ce n'est pas seulement la question du système, du capitalisme, du méthode de développement, c'est plus profond encore, c'est une question des mœurs de la société en général. Est-ce que les mœurs de la société en Europe, aux États-Unis, parmi le monde, est-ce que les mœurs de la société sont devenues trop matérialistes ? Quelles sont les responsabilités des institutions, des business, des sociétés en général ? Et encore plus que ça, il y a des questions pour nous-mêmes. Quel est l'objectif de notre vie professionnelle ? Est-ce que c'est seulement le gain de profit ? Est-ce que c'est seulement le gain de pouvoir ? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie que, pour citer les fondateurs de l'Amérique, la vie, la liberté et la recherche de bonheur? Est-ce qu'il y a plus de ça qui est important dans la vie? Quelles sont les conséquences, en somme, pour le bien commun? Quelles sont les tentations? Combien de gens entre nous ont fait, ont conclu cet pacte faustien dont Nicolas a fait mention et dont je veux parler un peu plus dans quelques minutes? En parenthèse, je trouve que l'image de Faust, de l'homme qui a vendu son âme au diable en échange pour un succès total, pour une période limitée, est tellement puissant même pour nos jours. Comme Nicolas a dit, c'est un livre d'exploration. C'est un livre très personnel, c'est un livre de mon exploration. Ce n'est pas seulement un livre technique, ce n'est pas seulement un livre sur les règles qu'il faut introduire pour sauver le système bancaire, etc. Ce n'est pas ça. Il faut commencer cette histoire avec une discussion sur le contexte de la crise. Parce que c'est bien que les banques ont failli, bien qu'il y a beaucoup qui a d'actions dans le marché, d'activités dans le marché qui n'étaient pas acceptables, bien que tout ça a détruit tellement l'économie réelle, tout ça est vrai, mais il faut comprendre que ça commence, l'histoire de la crise commence non pas avec les banques, mais avec un niveau plus mondial. Au niveau de mondialisation, du macroéconomie globale et le manque d'équilibre qui est devenu de plus en plus sévère dans les années récentes. Je suis convaincu qu'on ne peut pas relever les défis, de façon honnête du moins, sans accepter qu'on vit dans un contexte mondial qui change maintenant très vite et qui a des conséquences pour nous tous. Ce n'est pas seulement que nous vivons dans une ère de mondialisation. Ça, c'est vrai naturellement. Mais en plus, nous vivons d'une ère où le centre de gravité du monde se remue de l'ouest vers l'est. C'est une tendance qui a été évidente depuis au minimum 20 ans et qui s'accélère maintenant. La crise n'a pas freiné ça. Au contraire, cette tendance s'accélère. L'essor des pays en voie de développement, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, mais surtout la Chine, naturellement, ça continuera au minimum pour la prochaine génération. En 10 ans, en 15 ans, la Chine sera la plus grande économie du monde, sans doute. Il y a des implications de ce fait, de ce remuement du centre de gravité du monde, des implications qui sont très profondes. Des implications pour les relations intergouvernementales, naturellement. L'essor du G20, la marginalisation du G7, par exemple. Il faut examiner cette tendance sous une perspective historique plus longue. Ce n'est pas l'essor pour la première fois des pays en voie de développement. Ce n'est pas une question de « emerging markets », pour utiliser la phrase anglophone qui décrit ce phénomène. Parce que dans l'année 1820, par exemple, la plus grande économie du monde, c'était celle de la Chine. La deuxième économie du monde à cette époque-là, c'était l'Inde. Alors, il est plus exact de décrire ce qui se passe maintenant comme l'émergence pour la deuxième fois des économies les plus grandes du monde. Les impacts, les implications pour nous tous sont très profonds. Ce n'est pas une question de la crise, ce n'est pas une question simplement de la supervision des marchés, etc. Le défi du climat, le défi de l'élimination de pauvreté, tout ça nécessite pour la première fois dans l'histoire une coopération très intense au niveau mondial entre les pays développés comme l'Europe, comme les États-Unis, mais aussi les pays en voie de développement, y compris et importantement la Chine et l'Inde. Et ça, c'est très complexe naturellement. C'est pas du tout simplement une question intergouvernementale. C'est une question aussi pour le monde du business et pour le monde des marchés. Il y a un communiqué qui a été promulgué après la réunion du G20 à Londres en avril 2009, qui dit comme suit. Nous croyons que la seule base sûre d'une mondialisation durable et d'une prospérité croissante pour tous est une économie mondiale ouverte, fondée sur les principes du marché, sur une régulation efficace, et sur des institutions globales fortes. Ce qui m'intéresse au sujet de cette communication du G20 à Londres, avril 2009, c'est que cette déclaration a été signée par le président des États-Unis, par le président de la Russie, par le président de la Chine, par le président de l'Inde et par le roi du Royaume d'Arabie Saoudite. Et il est difficile d'imaginer 4-5 pays plus différents en beaucoup de sens que celle-ci, mais tout le monde se trouvait d'accord sur ces points-là. Et je veux souligner 4 points en particulier. Premier point, c'est que la mondialisation continuera. Il y a quelques-uns, peut-être, qui parlent de temps en temps comme s'il y avait une alternative aux mondialisations. Si c'était un système, une idéologie, si vous voulez, imposée par tel ou tel groupement sur le reste de l'humanité. Rien n'est plus loin de la vérité, qui est que la mondialisation, c'est une tendance très profonde de la nature humaine qui a impacté toute l'histoire humaine dès les premiers de l'expérience humaine et qui accélère maintenant. Il est probablement impossible de la freiner, même provisoirement, et certains n'ont pas en permanence. Il n'y a aucune possibilité de ramener les pendules, si vous voulez, en arrière. Et en plus de ça, ce n'est pas simplement une question de mondialisation qu'il faut accepter et reconnaître comme une vérité qui n'est pas modifiable. Mais en plus de ça, il y a une autre tendance humaine qui continue. Et c'est la tendance qui est étroitement liée avec la mondialisation, ça veut dire l'urbanisation. L'année 2008, c'était la première année où plus que la moitié des humains vivent dans des villes dans le monde. Et dans les prochaines 3 ou 4 décennies, presque tout l'accroissement de la population du monde sera dans des villes, et en plus de ça, dans des villes, dans les pays en voie de développement. C'est une transformation de l'expérience humaine très profonde et qui continuera dans les décennies en avant. Deuxième point, il n'y a point d'alternative au marché. C'est ce que les leaders ont dit à Londres au mois d'avril 2009. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme comme engin, comme moteur, si vous voulez, de développement économique et social. C'est la même chose que la mondialisation, en effet. Il n'y a pas d'alternative. Il ne faut pas être naïf, naturellement. Il y a beaucoup de problèmes avec le système, avec le capitalisme, mais il n'y a pas d'alternative. Et la leçon est claire. Pour citer Churchill, je suis anglais.
Tout anglais, normalement, constitué, voilà, doit citer au moins une fois.
Tous les Anglais vont citer Churchill dans une conférence. Ouais. Il a notoirement dit que, d'une démocratie, que c'est le système le pire gouvernemental, sauf tous les autres qui ont été tentés de temps en temps. Et je modifie cette citation pour l'appliquer au marché. C'est le moteur de développement social et économique le pire, sauf tous les autres qui ont été tentés de temps en temps. Et la leçon très claire du XXe siècle, c'est que les autres systèmes ont été tentés et nous savons maintenant ce qui sont les conséquences des autres systèmes. Alors, il faut accepter, pour bien ou pour mal, qu'il n'y a pas d'alternative au marché en termes de moteur de financement de société, de développement social et économique. Troisième point, au mieux, le marché comme moteur a une puissance très forte qui peut libérer des millions de gens de la pauvreté. C'est ce qu'ont vu les Chinois, par exemple, dans les récentes décennies. Au pire, comme nous savons aussi, c'est un dévastateur, c'est un dangereux polluant moral et ça pose des questions très sévères. Mais on ne peut pas éviter le marché soi-même. Il faut trouver une approche pour l'avenir qui est mieux, mais sans espérer qu'il y ait une alternative fondamentale au marché. Quatrième point, et enfin aussi important que tous les autres, c'est que le défi est pour nous tous comme individus. Je suis banquier. Mais nous tous, si nous sommes banquiers, si nous sommes businessmen, si nous sommes académiciens, quoi que ce soit, nous allons expérimenter ce défi. Ce n'est pas seulement le système qui a failli, ce n'est pas seulement la société, ce n'est pas seulement l'autre, c'est nous tous, c'est nous personnellement qui sommes impliqués, qui sommes impactés par ce qui est passé. Et ça pose des questions. Quels sont les objectifs de notre vie professionnelle? Quels sont les objectifs de la vie, en effet? Est-ce que nous avons le sentiment de contribuer au bien commun? Sinon, pourquoi exactement est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Nous n'avons, après tout, nous n'avons qu'une vie. Notre travail occupe une grande partie de notre pouvoir créateur, notre énergie, notre potentiel. Pourquoi est-ce que nous faisons ça sinon, si ça ne contribue pas en aucun sens au bien commun? Et les clichés sont vrais, après tout. Les clichés sur l'argent, les clichés sur le pouvoir, les clichés qui nous apprennent que l'argent et le pouvoir ne sont pas satisfaisants au niveau profond, tout ça est vrai. Et on trouve le reflet de cette vérité dans la littérature du monde, y compris les légendes Faust, ce que je trouve très profond. Trouver le chemin dans le 21e siècle, dans un monde de business, dans le monde de marché, qui reflète ces perspectives internationales, sociétales, personnel et spirituel, c'est la seule possibilité de relever le défi, d'apprendre les leçons, les vraies leçons profondes de la crise, d'influencer, même si de façon imparfaite et infime, le cours du tendance moderne. Le prix, c'est une vie intégrée, c'est une connaissance d'une mesure d'épanouissement, si vous voulez, c'est la possibilité de l'espoir. que le monde sera meilleur que maintenant de la vie de nos petits-fils. Danger, en parenthèse 5 maintenant, qui ont la possibilité de vivre du 22e siècle et qui focalise la question pour moi personnellement. Merci.
Merci beaucoup, Stephen Green. Avant de passer la parole à Maurice Lévy, deux ou trois points. Donc, vous avez tous compris que Stephen Green part d'un postulat qui est que, un postulat d'une démonstration qui est que la mondialisation est un phénomène très ancien, que ce phénomène est incontournable, qu'il va de plus en plus vite. Son livre explique de façon très détaillée, avec des exemples historiques à l'appui, comment est-ce qu'il y a une accélération absolument presque impossible à maîtriser de cette mondialisation, et que tout ça est intrinsèque à la nature humaine, comme le commerce, c'est-à-dire le travail autour de l'argent, comme le commerce est intrinsèque à la nature humaine. Et vous dites à un moment, dans votre livre, c'est page 84, vous dites cette phrase qui est forte et j'allais dire assez audacieuse. L'argent est devenu un facilitateur du commerce et le monde, avec l'argent, devint meilleur. Est-ce que l'argent a fait que le monde est devenu meilleur?
Dans le sens qu'il est impossible d'imaginer un monde sans l'argent. L'argent est vraiment un mécanisme du commerce qu'on ne peut pas éviter. Ce n'est pas du tout de dire qu'il n'y a pas de difficulté avec le contrôle de l'argent, naturellement. Mais on ne peut pas imaginer un monde moderne sans l'argent. L'argent est la mesure de nos possibilités, mais aussi de nos problèmes dans la vie moderne.
Alors en fait, ce qu'on mesure dans ce livre, c'est que partout est présente la notion d'ambiguïté. Et cette relation entre la morale et l'argent, entre le développement collectif et l'individualisme, tout ça est en permanence nourri par l'ambiguïté. Que c'est ça le sujet principal des questions que vous posez, essayer de résoudre le mieux possible les ambiguïtés qui sont contenues dans la morale, l'argent, la mondialisation, l'individu.
Le sens d'ambiguïté que je discute très souvent dans le livre, c'est simplement reconnaître que la vie humaine est complexe. Au meilleur, nous sommes des gens créateurs, coopératifs, avec un sens des possibilités, avec de l'espoir. Au pire, nous sommes des animaux qui sont sujets au mal, en effet, qui ont la tendance de détruire, de combattre, blablabla. Alors, cette ambiguïté est de la nature humaine et ça impacte, ça implique nous tous, ça impacte tout ce qu'on fait, soit dans le domaine des marchés, soit dans le domaine académicien, soit quoi que ce soit d'activité humaine. Il existe. Ça mène à des complexités praticales, mais aussi morales.
Un dernier point avant de passer la parole à Maurice Lévy. Vous expliquez au début de votre livre que dans les années 60-70, nos sociétés étaient séparées de façon profonde, nette, clivées, comme on dit maintenant, qu'il y avait des modèles idéologiques qui étaient évidemment très hostiles les uns aux autres, ce que vous avez rappelé il y a un instant. Oui. Aujourd'hui, ces clivages ont à peu près disparu. En tout cas, il n'y a plus de contestation fondamentale de l'idée que le capitalisme, voilà, le marché, est le moins mauvais des systèmes. Et pourtant, vous dites que dans cet univers de chute des idéologies, alors que, a priori, les choix devraient être plus simples, ils sont plus compliqués. Pourquoi?
Ça, c'est une question difficile. Mais après 89, on avait, pour quelques années, le sentiment qu'on a trouvé l'âge d'or. Et pour quelques années, dans les années 90 et les premières années de cette millénaire, il semblait vraiment, du moins de la perspective économique, qu'on avait bien trouvé l'âge d'or. Taux de croissance très élevé, je parle au niveau économique, oui, mais aussi sociétal, libération de milliers de gens, ci devant l'Union soviétique, dans la Chine, même en Inde, par exemple. Il y avait de l'espoir que le chute du mur de Berlin, etc., etc. Mais après ça, on a peu à peu retrouvé une reconnaissance que dans l'être humain, dans la nature humaine, il y a une tendance qui est un peu inquiétante, si vous voulez, une tendance matérialiste, une tendance individualisée, une tendance de sacrifier les objectifs à long terme aux objectifs à court terme. Et tout ça devient de plus en plus, qui est toujours là dans l'histoire humaine, mais ça devient de plus en plus sérieux maintenant, parce que nous sommes arrivés à un point dans l'histoire humaine où nous trouvons face à des difficultés très profondes, le changement du climat, problème de pauvreté au niveau mondial, risque de resserrement des ressources, au niveau, oui, etc.
Épuisement des ressources naturelles.
Et au niveau personnel, on trouve que la satisfaction des besoins et des demandes matérielles ne mène pas à une satisfaction vraiment... Moi, j'utilise le mot spirituel, mais sinon, le mot psychologique, il y a un manque de satisfaction.
Alors, Maurice Lévy, vous, une partie de votre métier est justement, j'allais dire, d'exciter le besoin naturel de consommer et de faire en sorte que, ben, au contraire, par votre métier, cette société de consommation, dont Stephen Green dit qu'elle est... elle est consubstantielle à la nature humaine, cette société de consommation et de concurrence et de production, soit la plus efficace possible. Comment est-ce que vous avez lu et vécu, comment est-ce que vous avez réagi à la lecture de ce livre ?
Ben, d'abord, je veux dire que vous allez avoir du mal à nous opposer parce que sur beaucoup de sujets, nous sommes complètement d'accord.
J'ai l'impression que c'est...
Et donc, je suis un peu désolé pour l'audience parce qu'il n'y aura pas les selles d'une opposition entre... D'ailleurs, c'est un peu normal. On pourrait dire quelqu'un qui est mu par la spiritualité et puis, par ailleurs, quelqu'un qui est poussé par la consommation et les gains qui vont avec. C'est un peu normal, puisque d'un côté, vous avez un banquier spirituel, dans tous les sens du terme.
Oui, oui.
Il a, comme on a pu le voir, de l'esprit et il est habité par l'esprit.
Et
vous avez un publicitaire qui s'habille comme un banquier pour essayer de le mimer. Mais justement, parce que nous sommes dans une société de consommation et parce que nous, publicitaires, nous avons la responsabilité de l'aiguillon que nous faisons porter à la société de consommation, nous nous sentons extrêmement responsables du comportement des marques et du comportement des consommateurs et de ce que nous délivrons aux consommateurs. Et donc, nous avons un devoir d'éthique que, dans l'ensemble, la profession publicitaire respecte plutôt bien. Il n'y a pas que Publicis. Ce serait un élément de différence intéressant. Mais la société, dans l'ensemble, tous les grands partenaires des marques sont assez respectueux, certains plus que d'autres, nous peut-être un peu davantage encore pour d'autres raisons. Et donc, on fait extrêmement attention à cet aspect. Je voudrais revenir sur le livre de Stephen Green. J'ai été personnellement à la fois impressionné et fasciné. Il se trouve que nous nous connaissons un peu, nous nous croisons à Davos, nous avons eu aussi la possibilité de dîner de manière un peu intime. Il faut dire que HSBC est sorti assez intact de la crise. Et dans tous les contacts que nous avons eus, on a pu avoir quelques échanges et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'opposition fondamentale. Mais pour moi, malgré tout ce que je savais sur Stephen Green, parce que c'est un homme assez public, c'était avant tout un banquier. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir, non pas un banquier qui nous expliquait la crise, parce que l'explication technique de la crise, elle est assez sommaire, Stephen. C'est plutôt un philosophe et plutôt un explorateur des âmes. Et là-dessus, alors je ne sais pas si c'est un compliment ou si c'est... J'ai été très frappé d'abord par la très grande culture. Je veux dire, c'est très impressionnant. Et là, il a fallu de temps en temps que j'aille sur Google pour essayer de me plonger dans certaines des citations ou certaines des références. Il y a vraiment une connaissance, une réflexion très approfondie sur les grands courants. Et c'est vrai que lorsqu'on réfléchit en 1820, on le savait, mais c'est bien de le rappeler, la Chine était la première puissance mondiale. On savait déjà par Marco Polo que la Chine était d'ores et déjà l'inventeur de la poudre alors que nous en étions extrêmement loin. Et donc, ce rappel et en même temps la mise en perspective non seulement de ce qu'étaient ces États, mais de leur immense culture. Parce qu'on a toujours l'impression que la culture est chrétienne ou judéo-chrétienne et que la culture est occidentale. La réalité est que la culture est... Ce que nous savons bien, elle est diverse, elle est éminemment respectable dans toutes ses diversités et qu'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de philosophies, beaucoup de choses qui ont été faites. Vous citez même l'invention de l'algèbre par les Arabes, etc. Donc il y a toujours cette profondeur de la réflexion. On n'est jamais dans un champ plat, on n'est jamais dans une réflexion instantanée, on est toujours dans une réflexion à plusieurs dimensions dans lequel entre la dimension historique, le temps, la dimension géographique, l'espace, et puis la dimension spirituelle, parce que vous ne pouvez pas vous séparer des réflexions. D'ailleurs, comme Français, je suis impressionné de voir à quel point Théard de Chardin a pu vous marquer. Donc, quand on regarde tout cela, d'abord on se dit c'est dommage qu'il n'y ait pas davantage de banquiers qui soient passés par le même type de réflexion. Parce qu'il se trouve que la semaine dernière, J'ai vu un film magnifique que je recommande à tout le monde de voir, qui est Inside Job, qui est extrêmement dur, extrêmement brutal, mais remarquablement bien fait, et qui a une thèse, qui est la thèse, grosso modo, c'est l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, l'homme est cupide. Ne cherchez pas à l'améliorer, puisqu'il n'y a pas de chance de l'améliorer. Il est fait comme ça, et donc il faut absolument l'encadrer et le reformater et de manière à pouvoir faire en sorte que l'homme se comporte un peu mieux. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé, dans, non seulement la lecture, mais en même temps en mettant en perspective par rapport à cette lecture, ce que, au passage, je pose la question que Nicolas a évoquée instantanément, qui est entre « good value » et « valeur sûre ». Je veux dire, là-dessus, la traduction... On peut s'interroger. Mais enfin, c'est le reste. Moi, j'avais commencé le livre en anglais, je l'ai fini en français. Je crois que la traduction me paraît tout à fait satisfaisante. Et quand on remet tout ça en perspective, on se dit, mais quand même, il y a des crises considérables que nous avons connues, que ce soit le septembre sombre ou octobre sombre de 87, que ce soit la crise... de l'Internet bubble, hein, la bulle Internet, qui s'est accompagnée en même temps de choses éminemment graves sur lesquelles beaucoup de législateurs américains se sont penchés, le Congrès tout entier, pour édicter une loi Sarbanes-Oxley, parce qu'il y avait Enron et bien d'autres qui avaient mené des tricheries, des escroqueries à l'échelle jamais vue jusqu'à présent. Et puis 10 ans après... on trouve non seulement Madoff, qui est une réplique d'un schéma qu'on connaît bien, le Ponzi Scheme, mais on trouve avec ça un effondrement des économies mondiales. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, vous avez dit la crise financière et vous avez parlé d'économie réelle. Et cette dichotomie à laquelle on s'est habitué aujourd'hui de penser que la sphère financière est une sphère qui n'est pas dans le réel. Et qu'on la sépare du réel parce que de toute façon, ça se passe ailleurs et que ça n'a pas à avoir de prise sur le monde réel. Et par ailleurs, ça a des conséquences sur le monde réel avec quelque chose de terrible, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, leur maison, qui sont des gens sans domicile fixe, des SDF, qui ont tout perdu, tout simplement parce qu'il y a des gens qui... ont joué avec leur vie, qui ont joué avec leur avenir, en ne se préoccupant que d'une chose, c'est de maximiser les gains. Et qu'il y a eu une espèce de course très étrange, et pour moi, c'est l'interrogation la plus importante. Finalement, quand on regarde tout ça, il y a en fait deux grandes interrogations, ou peut-être trois. La première, bien sûr, c'est cette idée qui est née aux États-Unis, mais je ne critique pas les États-Unis, j'ai pour... l'économie américaine et la civilisation américaine une vraie admiration pour beaucoup de choses qu'ils ont accomplies, mais pas pour tout. C'est-à-dire que je considère que j'ai un droit à inventaire cette idée de maximiser la stockholder value. Et donc, à partir de là, les gens, leur but était très simple, c'est comment est-ce qu'ils pouvaient faire le maximum d'argent, le maximum de profit. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette incroyable échelle de perroquet sur la rémunération des dirigeants, où très vite, des gens se sont mis à gagner des sommes extravagantes et tout le monde trouvait ça normal. Mais des centaines de millions de dollars par an, pas des petites sommes. Dernière chose, c'est que finalement, comme il y a cette compétition entre les banques, à partir du moment où certaines s'étaient engagées dans des espèces de subprime et de concours pour gagner plus d'argent, les autres, dans les conseils d'administration, se sont dit « il faut faire la même chose et il faut copier parce qu'on est comparé ». Et comme on est comparé et qu'on apparaît comme étant moins bon, à partir de là, il faut qu'on fasse la même chose. Donc tout ceci m'interroge et me dit que finalement, on doit se poser les questions de fond sur ce qu'est la finalité de l'entreprise et comment est-ce que l'entreprise doit être conduite. Alors, je m'arrête là pour ce propos introductif, de manière à ce qu'on puisse avoir un peu un débat. J'ai été un peu long.
Un rapide débat. Merci, Maurice Lévy. Merci beaucoup. Une ou deux citations du livre pour essayer de voir si vous êtes aussi loin que ça d'accepter d'avoir un débat. Page 63, j'ai l'impression que Stephen Green parle des publicitaires. Il dit « Comme Ulysse, le genre humain est dans son ensemble pris à mesure égale entre curiosité et cupidité. Est-ce que ce ne sont pas les deux ressorts de la publicité, la curiosité et la cupidité ?
Moi, je pensais que c'était une introspection sur le métier de banquier. la curiosité pour les systèmes mathématiques auxquels ils ne comprennent rien, et la cupidité pour gagner davantage d'argent. Mais c'était mon impression, hein. Et d'ailleurs, quand je regarde Inside Job, je dois dire que c'est ce dont on parle.
Autre phrase, mais qui là est, j'allais dire, plus profonde. Stephen Green dit une chose qui est forte et sur laquelle il n'a pas l'air de douter. Éradiquer la pauvreté n'est pas une lubie. Et il appelle, à l'appui de cette affirmation forte, encore une fois, un économiste américain qu'on connaît bien nous aux Échos, qui s'appelle Jeffrey Sachs, et qui explique tout simplement, je le cite, « Notre génération est la première de l'histoire du monde qui est la capacité d'éradiquer l'extrême pauvreté. Nous en avons les moyens, les ressources, le savoir-faire. La seule chose qui nous manque est la volonté. » Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah, complètement. Et je trouve d'ailleurs que s'il y a un point sur lequel Stephen Green a mis le doigt dessus de manière extrêmement juste et extrêmement intelligente, c'est le fait que la mondialisation a fait énormément de bien à l'économie mondiale, à la sortie de la pauvreté des millions, des centaines de millions de gens. Ne l'oublions jamais. Alors c'est vrai qu'en même temps, elle a déstabilisé les économies mondiales. Et je veux dire, à partir de là, on peut se poser un certain nombre d'autres questions. Mais le fait que la mondialisation est sortie de la pauvreté des centaines de millions d'Indiens, des centaines de millions de Chinois, des dizaines de millions de Latino-Américains, c'est un fait qui est avéré et indiscutable. Et sans le libre-échange mondial et sans l'effondrement des frontières, ça ne serait pas arrivé.
Stephen Green, à mon tour d'essayer de créer un débat avec vous vis-à-vis de Maurice Lévy, est-ce qu'on connaît la responsabilité des banquiers dans ces crises ? Et d'ailleurs, vous ne la fuyez pas. À plusieurs reprises, vous expliquez que les banquiers ont été arrogants, cupides, etc. Ce sont vos termes. Est-ce que les publicitaires ne vous ont pas aidé à tomber dans ce travers ?
Il y a toute une série de gens qui sont coupables de ce qui s'est passé. Premier point, il faut avouer que la grande majorité des banquiers ne sont pas coupables de ce qui s'est passé. La tragédie, c'est que c'est une groupe minoritaire entre les banquiers qui ont poursuivi ces activités irresponsables et dévastateurs. Mais ce n'est pas seulement les banquiers, ce n'est pas seulement les publicitaires, ce n'est pas seulement les avocats, Il y a un sens très important dans lequel toute la société est coupable. Ce n'est pas seulement les banquiers, ce n'est pas seulement les professionnels du monde des marchés qui ont créé ce matérialisme. C'est une, si j'utilise le mot idéologie, je suis douteux si c'est le propre mot, mais dans un certain sens, on avait dans les dernières 2 ou 3 décennies un fondamentalisme du marché qui était une idéologie. Et ça a été avancé, ça a été soutenu par les politiciens, par les leaders du société. C'est une, comme j'ai dit dans ma première remarque, c'est une crise qui a posé des questions pour nous tous, et pas seulement pour les banquiers. Certainement, les banquiers sont coupables, bien sûr, sans doute.
Vous démontrez, c'est plutôt dans la première partie de votre livre, que la religion a accompagné cette mondialisation, et vous arrivez à une conclusion qui est assez frappante, assez étonnante. Vous expliquez que les États-Unis sont différents du reste du monde dans ce sens que c'est un peuple qui est beaucoup plus religieux. Et parmi les peuples les moins religieux, ou en tout cas dont la religion entre le moins en résonance avec la politique, il y a l'Europe. Donc on a un peuple assez religieux d'un côté et d'autres, dont la Chine, qui le sont moins. Quelles sont les conséquences que vous voyez à ça ?
C'est une question intéressante. Je ne dis pas que les États-Unis sont différents de tout autre peuple du monde. Je n'ai pas dit
ça. Vous
dites
que c'est le plus religieux.
Il y a une différence très importante entre les Américains et les Européens, pour la plupart. Il est vrai, je crois, que la société moderne en Europe, c'est le produit de la lumière, en effet, dans un sens beaucoup plus profond que c'est la vérité en Amérique. L'Amérique reste beaucoup plus religieuse, de façon superficielle du moins, que l'Europe. Je trouve intéressant que l'Europe et la Chine ont cette relative manque de religiosité en commun. Je trouve ça intéressant pour des différentes raisons. Dans le cas d'Europe, c'est à cause de la lumière et les développements depuis la lumière.
Le siècle des Lumières,
siècle, hein, voilà. Ouais. Dans le cas de Chine, c'est la culture qui, depuis du commencement, il y a 3000 ans, Il y a une culture qui n'est pas fondée sur une mythe religieux dans le même sens que celle du reste du monde. Dans ce sens, la Chine est l'exception. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'âge moderne, il y a une très intéressante similarité entre les Européens et les Chinois.
Et est-ce que ça change le rapport que Européens et Chinois d'un côté et Américains de l'autre ont vis-à-vis de l'argent ou vis-à-vis de...
Non, pas nécessairement.
Donc quand vous dites que c'est très intéressant, qu'est-ce que ça vous permet de conclure ?
Les différentes perspectives religieuses, philosophiques, ne se traduisent pas aisément dans les différentes approches dans le monde commercial. L'attitude vers l'argent, culpabilité, cupidité, etc., se trouve partout. Ça, c'est la conséquence de la nature humaine qui se trouve partout dans le monde et partout à chaque temps dans l'histoire.
Maurice Lévy, sur ce point, est-ce que vous avez senti... Vous travaillez dans ces différents continents, évidemment.
Oui.
Est-ce que vous avez senti cette différence de relation à la religion ?
Je me suis interrogé parce que je n'avais jamais réfléchi de cette façon-là. Et donc, je me suis posé la question de savoir si ça avait une influence. Et je dois dire, en toute modestie, que je ne sais pas. Je ne sais pas. En revanche, il y a une autre question que je me suis posée qui me paraît... En tous les cas, devoir être posée, je ne sais pas si elle est intéressante, c'est que je me demande si finalement l'effondrement d'un certain nombre d'institutions, de systèmes, de principes moraux ne sont pas des éléments qui ont poussé aux excès. Et qu'en fait, quand on regarde la situation, que ce soit les différentes crises ou que ce soit les problèmes que l'on connaît depuis maintenant une trentaine d'années, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le mensonge qui a coûté quand même le siège à Nixon a été totalement impuni, alors qu'on savait très bien et que tout le monde savait très bien et que ça a été vérifié ensuite que, si je prends la guerre d'Irak, la guerre d'Irak a été conduite sur un mensonge.
Ça n'a pas valu une popularité ni un succès énorme à George W. Bush. Hein,
oui, mais... d'accord, mais enfin, il n'y a pas une seule institution qui s'est posé la question là-dessus. La deuxième question que je me pose, c'est que, est-ce que finalement, on ne s'est pas retrouvé avec un effondrement de nos valeurs, tout simplement parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir en Chine, et il n'y a pas de contre-pouvoir à l'échelle mondiale, puisque le communisme a disparu. Mmh. Et donc ce qui peut-être nous gardait d'un certain nombre d'excès et nous obligeait à nous conduire à peu près bien, est-ce que ce n'est pas ça finalement qui a disparu ?
Alors vous trouverez probablement, Maurice Lévy, peut-être en relisant ce livre que je vous recommande à nouveau à tous, « Valeurs sûres », cette réflexion sur l'argent, la morale dans un monde incertain, vous trouverez peut-être une partie des réponses. On va reprendre avec ce sujet justement sur la politique, Stephen Greene. Grande partie de votre carrière, l'essentiel de votre carrière a été faite dans l'univers du privé, avec cet engagement sous-jacent qui a été le vôtre. Et aujourd'hui, vous quittez l'univers de l'action comme patron pour entrer dans un univers
un peu différent,
celui de la politique. Est-ce que vous pensez qu'on a plus de chances de faire changer le monde quand on est homme politique ou quand on est banquier au niveau de responsabilité qui était le vôtre ?
Non, pour moi, c'est une nouvelle étape dans ma carrière. On m'a rendu le très grand honneur de m'inviter à faire un job dans le gouvernement. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas membre du parti, quoi que ce soit. Je ne suis pas politicien.
En France, on dit que vous êtes de la société civile.
Voilà. C'est un job qui doit être fait, qui est vraiment nécessaire pour le bien public en Angleterre, à mon avis. Ce n'est pas seulement mon avis. Et si le Premier ministre pense que je puis faire une contribution, je suis très honoré et je vais tenter de le faire. Mais lequel a l'opportunité de plus d'influence, c'est une question difficile. Il y a, pour bien ou pour mal, il y a une possibilité d'influence dans le siège d'une banque, naturellement.
Bien sûr.
Surtout une banque mondiale, une banque internationale comme l'HSBC. Il y a beaucoup de chances de soutenir le développement de plusieurs pays, de soutenir le développement des business models de millions de PME, par exemple. Il y a beaucoup. C'est un très grand honneur d'être banquier dans ce rôle. Mais cette nouvelle étape, pour moi, c'est une nouvelle défi. Je m'y réjouis. Et c'est, comme j'ai dit, c'est un grand honneur d'avoir l'opportunité de contribuer quelque chose à mon pays natal.
Maurice Lévy, vous travaillez vous aussi bien avec des grandes entreprises mondiales. Vous êtes à la tête d'une grande entreprise mondiale. Vous travaillez avec des marques mondiales. Et vous conseillez aussi des gouvernements. où sont les leviers les plus efficaces pour justement faire en sorte que l'ambiguïté entre argent et morale, développement et bien-être commence à se résoudre ou se résolve un peu mieux?
Je pense qu'historiquement, c'était les gouvernements qui avaient le plus de la capacité de faire et de changer les choses et d'influer sur le cours des choses, non seulement parce qu'ils ont l'initiative de la loi, ce qui est quand même un élément fondamental, mais aussi parce qu'ils en avaient les moyens. Aujourd'hui, quand on regarde les différents gouvernements, à l'exception des pays que Stephen appelle émergents et que j'appelle submergents, en dehors de ces pays-là, les États sont désargentés. Ils sont largement endettés, ils n'ont plus les moyens d'agir. Il leur reste la loi. Et compte tenu du fait que les gouvernements sont très vite impopulaires, très vite, je veux dire que c'est effrayant de voir à quel point, prenons l'exemple pour ne pas avoir de réflexion interne proche de nous, prenons l'exemple d'Obama, qui a été quand même élu comme une star mondiale du rock, et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation où tout le monde s'interroge, se demande s'il a fait, s'il n'a pas fait. Il n'y a finalement que les Européens qui lui accordent encore un très large crédit. Donc moi, j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup plus quand on est à la tête d'une entreprise, quand on a à la condition d'avoir des valeurs, à la condition d'avoir une éthique, à la condition d'avoir un code de conduite qui est respecté partout à travers le monde. À ce moment-là, on peut véritablement apporter quelque chose, on peut améliorer le sort des gens, on peut les aider à se former, on peut les aider à acquérir des connaissances et à acquérir un bien-être. Bon, c'est peut-être un peu modeste, mais en tous les cas, on peut faire des mini-progrès, micro-progrès, qui ont un effet quand ils sont additionnés.
À condition d'avoir des valeurs, disiez-vous, quelles sont, je poserai la question après à Stephen Green, il y répond en partie dans son livre, quelles sont les valeurs que doit avoir un chef d'entreprise?
Moi, les valeurs de publicité sont bien connues et elles existent depuis
la nuit des temps. Parlez-moi des vôtres, celle de Maurice Lévy à la tête d'une entreprise.
Moi, je pense que la dimension éthique est la dimension essentielle et que les notions d'intégrité, les notions d'honnêteté sont des choses absolument indissociables. On ne peut pas faire un métier de chef d'entreprise si on n'est pas exemplaire. Je pousse les choses à l'excès. Je considère qu'on doit être vraiment impeccable. Impeccable, je ne demande pas à ce qu'on soit dans sa vie privée, mais dans son comportement par rapport aux questions essentielles de la conduite de vie. Parce qu'on a la responsabilité de dizaines de milliers de personnes et parfois de centaines de milliers de personnes. On ne peut pas jouer avec ça. Et je trouve que c'est très grave de le faire. Alors, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Stephen. Il a dit, finalement, c'est une minorité de banquiers. Et je suis d'accord, c'est une minorité de banquiers. De même que c'est toujours une minorité de chefs d'entreprise qui jettent l'ombre sur la majorité des entreprises. Quand on regarde les choses, la vaste majorité des entreprises se conduisent bien. La très grande majorité des patrons se conduisent bien. Il y a vraiment peu d'exceptions.
Mais leur image est très mauvaise.
Voilà. Ces exceptions rejaillissent sur tout le monde. Et là, il y a un travail de fond à faire et on n'est qu'au début.
Stephen Green, les valeurs?
En premier lieu, est-ce que je pourrais revenir sur un point dont Maurice a fait mention? C'est la question que vous décrivez comme tendance américaine de maximaliser le shareholder value. Je suis d'accord que l'un des racines du problème, cette focalisation sur la maximalisation du shareholder value à court terme. Et ça, c'est le
problème. À court terme.
Je suis de l'avis que le rôle propre du business, du conseil d'un business, c'est de maximaliser le shareholder value à long terme. Et si on construit ce qu'il faut faire dans ce sens-là, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'éthique, contribution au bien commun et le retour pour le shareholder. Ça, c'est très important, cette perspective long terme. C'est analogue à ce qu'il vient de dire au sujet des politiciens. Il faut trouver le chemin qui focalise sur le long terme. Si on est politicien, si on est businessman, si on est investisseur, dans tous les sens, c'est une reprise de ce thème, long terme, long terme, long terme.
Quelles sont les valeurs? On y reviendra, Maurice.
Stockholder value. Oui. Je voudrais juste revenir là-dessus. Je ne suis pas du tout contre maximiser la stockholder value. Je trouve que ça fait partie des rôles. Quand j'évoquais ça, je l'ai fait de manière un peu cursive, un peu résumée. En réalité, c'est que dans mon rôle de conseil d'entreprise, j'ai vu plus d'une fois mission statement, c'est-à-dire quelle est la mission de l'entreprise, deux points, maximiser la stockholder value. Alors là, je dis, attendez une minute, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Si votre mission, c'est ça, il y a une vraie question par rapport à l'entreprise. Là, il y a une faute, à mon avis. Et je me suis élevé contre ça plus d'une fois. Et je trouve que pour faire plaisir à des fonds, que des conseils et des CEOs se disent bah, « Finalement, ma mission, c'est de maximiser la stockholder value », c'est une faute grave.
Oui, oui.
Vous êtes d'accord avec ça? Dites-moi, quelles sont vos valeurs? Alors, dans le livre, vous expliquez qu'un jour, quelqu'un vous a demandé de donner les 10 valeurs essentielles d'un patron et que vous n'avez pas donné de réponse satisfaisante. Depuis, vous y avez réfléchi. Donc, quelles sont les valeurs?
C'est différent. Et c'est une question qui m'a été posée. Les 10 points de ma foi, c'est différent. Pour les valeurs, je dis, je commence avec ce principe que l'objectif du business, en général, c'est de maximiser à long terme et non à court terme. Et je suis totalement d'accord avec ce que Maurice vient de dire, c'est que le mission statement, c'est le statement de la déclaration sur l'objectif des produits que le business produit pour le marché. Ce n'est pas un objectif de maximiser le gain de revenu. La maximisation du gain de revenu doit être la conséquence d'une business model qui est bien ciblée sur les besoins du consommateur, n'est-ce pas?
On est bien d'accord.
OK. Pour achever ça, cette focalisation sur le long terme, il faut une durabilité qui a au minimum 4 différents sens qui sont tous importants. Premier point, il faut être rentable. Comme Keynes a dit, Keynes est très souvent cité maintenant dans la crise, mais Keynes a aussi dit « In the long run, we are all dead
». À long terme, nous serons tous morts.
Ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose qui est viable, qui est rentable dans le sens de business, et pas seulement se dire « Je vais contribuer au bien commun » sans référence à la rentabilité du business. Alors, premier point, il doit être rentable. Deuxième point, pour être rentable, il faut servir les vrais besoins du consommateur, du client. Sinon, on va, à long terme du moins, les décevoir. On ne peut pas exploiter le consommateur tout le temps. Alors, il faut avoir des relations avec le consommateur, avec le client, qui sont fondées sur une perspective de partenariat fixée sur le long terme. Troisième point, pour achever ça, il faut avoir des relations avec vos employés qui est aussi focalisé sur le long terme, qui n'est pas destiné pour exploiter à court terme le potentiel des employés. Et quatrième point, et c'est un point qui devient de plus en plus important dans l'âge moderne, c'est que les employés, d'une part, et de plus en plus les clients, d'autre part, demande que le business a une responsabilité pour la communauté dans laquelle il opère. Il est nécessaire maintenant pour, par exemple, attraire des nouveaux candidats pour le management, les produits des universités. Il faut les convaincre que le business est responsable dans le sens qu'il contribue au bien commun et qu'il a une attitude responsable envers l'environnement, vers le climat, etc., etc. Alors, ce que je dis, c'est une chose qui est en somme très simple. Focaliser sur le long terme, ça veut dire avoir un modèle qui est durable, ce qui veut dire une connaissance du responsabilité aux sociétés et non seulement aux shareholders.
Je reprends quelques éléments de votre livre. C'est vers la fin, dans les pages 204, 205 et suivantes. Vous expliquez que nous avons tous besoin de relever un défi et nous apprendrons alors que nous pouvons éviter le péril faustien, le mythe de Faust, et rester sur un chemin d'épanouissement à condition de prendre certains principes pour guide. Premier principe, l'intégrité. Deuxième principe, la prise en considération des autres. Troisième principe, l'ambition. L'ambition qui, dites-vous, n'est pas incompatible avec l'accomplissement personnel, le véritable accomplissement, si
elle consiste... Il faut le définir soigneusement.
Voilà. Si elle consiste à vouloir contribuer davantage et non pas à s'approprier davantage. Voilà. Quatrième principe, les êtres humains ont le besoin et la responsabilité d'équilibrer leurs engagements entre différents secteurs d'existence. Cinquième lieu, l'étoffe d'un chef. Avoir l'étoffe d'un chef. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Je ne sais pas exactement ce que j'ai écrit en anglais, en effet. Mais la responsabilité de leader. Et je suis convaincu sur un point très important, c'est que les responsabilités de leader ne sont pas concentrées seulement sur les leaders dans l'organisation. Ça commence naturellement avec le conseil, avec le top management. Mais ce n'est pas seulement eux qui ont la responsabilité. Au sein d'HSBC, il y a 300 000 employés en 88 pays. Et je dis à mes collègues partout dans le monde, il n'y a aucune différence si vous êtes un type qui a des centaines de gens qui vous rapportent ou si vous êtes dans une poste dans l'organisation où il n'y a pas de personnes qui vous rapportent. Même dans ce cas, vous êtes leader dans ce sens que vous avez l'opportunité d'influencer pour bien ou pour mal ceux qui travaillent autour de vous ou ceux qui ont des relations avec vous dans le marché ou bien chez vous.
L'ambition, Maurice Lévy, c'est une valeur?
Oui, mais c'est très amusant parce que quand Marcel Boussaint-Blanchet m'a confié les rênes de Publicis, donc en fin 87, j'avais défini un peu ce qu'étaient nos valeurs et ce que nous devions faire. Et il y en avait deux qui avaient surpris un peu les gens dans la maison. L'une qui était l'effacement. Et je considérais que c'était une valeur que de s'effacer, puisque comme on est dans le métier de la publicité, on a assez facilement tendance à se mettre en avant, alors que notre boulot est de mettre en avant nos clients. L'effacement de soi. La deuxième, c'était l'ambition que j'avais qualifiée d'ambition de bon aloi. Alors ça fait un peu vieux français et un peu vieux con, pardon.
Non, c'est très chic.
Mais très chic. Je pensais que... Il y avait plusieurs formes d'ambition. Il y a l'ambition qui consiste à marcher sur les gens et à se tailler un chemin de quelque façon que ce soit. Et je ne voulais pas être mal compris. Et j'avais donc qualifié cela d'ambition de bon aloi en disant qu'il est important de fonctionner dans le respect de son environnement et de ne pas avoir une ambition au détriment des autres, mais une ambition pour la collectivité. Je reviens, moi, sur la notion de responsabilité qui me paraît très importante. Et je trouve que finalement, si on essayait de qualifier l'entreprise demain, je crois que, et si on ne devait choisir qu'un seul mot, c'est le mot responsable que je choisirais. Responsable vis-à-vis de ses salariés, parce qu'on ne peut pas considérer que les salariés, c'est des marchandises et que c'est une variable d'ajustement des crises. Et c'est bien souvent ce qui a été fait. C'est responsabilité vis-à-vis de ses clients, c'est-à-dire qu'il faut effectivement développer les produits qui leur conviennent et les vendre au prix qui est juste. Responsabilité aussi vis-à-vis de tous ses partenaires, y compris ses fournisseurs. Je trouve que parfois, dans le système économique actuel, il y a peut-être du fait de la mondialisation, et là on peut s'interroger, parce que la mondialisation a conduit à une perte de valeur assez considérable et que le fait qu'on puisse produire à bas coût, ça a conduit à des détériorations de valeur. Et donc, on doit avoir un certain respect pour les gens qui nous ont accompagnés et une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et quand on embarque des sociétés avec soi dans une aventure internationale, il ne faut pas les laisser au milieu du guet. Et la quatrième partie, c'est bien sûr vis-à-vis de la cité, que ce soit l'opinion publique, que ce soit la responsabilité que l'on a vis-à-vis de réchauffement climatique, émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Ça donne toute une collection de choses sur lesquelles on doit être vigilant. Et donc, cette notion de responsabilité me paraît essentielle.
Stéphane Grin, avant de passer la parole à la salle, je voudrais vous poser une question qui revient sur votre engagement religieux et sur votre métier de patron. La question la plus facile serait... La question la plus facile serait de vous demander si votre engagement religieux vous a amené à prendre des décisions que vous n'auriez pas prises, etc. Je suppose que vous avez déjà largement réfléchi à ça et probablement que la réponse est oui. Est-ce que, si je me souviens de tout ce que vous venez de dire sur le long terme, le fait de ne pas être trop dans le court terme, etc., est-ce qu'il est arrivé à ceux avec lesquels vous travaillez? Est-ce qu'il est arrivé aux fonds d'investissement? Est-ce qu'il est arrivé à vos actionnaires de vous reprocher de prendre une décision en vous disant « cette décision, elle est prise parce que vous avez un objectif religieux ou un sentiment religieux. Vous ne prenez pas la décision qu'un bon businessman délivré de cela devrait prendre. Cette décision est influencée par votre engagement religieux. » Est-ce que ça vous est arrivé?
Je ne peux me souvenir d'une occasion où il y avait une décision spécifique qui a résulté d'une perspective spécifiquement religieuse. Ce qui est vrai, c'est que, premier point, personne n'est parfait. Fou.
À l'exception de deux ou trois personnes ici.
Oui, oui, bien sûr.
Personne n'est parfait. Tout le monde existe dans un monde de différentes tons de gris. Et pour la plupart, ce n'est pas noir et blanc. Allez, premier point. Cette compréhension qu'il y a des imperfections dans tout ce qu'on fait personnellement, tous les opérations du business, c'est très important. Deuxième point, au sein du HSBC, il y a, comme j'ai dit, 300 000 personnes de presque toute culture
et communauté, religion,
engagement imaginable. Ce qui est fascinant, en parenthèse, absolument fascinant. Je trouve fascinant de voyager autour du monde HSBC et de visiter mes collègues dans de telles différentes circonstances et de trouver des différences fascinantes, des variations fascinantes, et en même temps, une conviction qui, pour la grande, grande majorité des personnes, qui veulent savoir que ce qu'ils font est une contribution efficace et qui a une motivation qui n'est pas limitée par l'argent, qui ont une motivation qui va à satisfaire aux vrais besoins du client, etc., etc. Je suis optimiste, je suis convaincu de... Ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont monté des activités inacceptables, mais pour la plupart, c'est une conclusion optimiste.
Et donc, religion et pouvoir,
oui, voilà, manager. Voilà. Dans un monde comme ça, on ne peut pas utiliser de façon simple et insensible une perspective religieuse. Ce qu'on peut faire, c'est le troisième point. Je ne suis pas l'inventeur de l'atmosphère du culture éthique du banque HSBC. Je suis l'héritier d'une toute une série de leaders dans les centaines d'années que la banque a existé, qui ont été pour la plupart de gens de très grande qualité, d'une morale très spécifique et très définie. Et la plus grande priorité pour moi, pour le conseil, pour mes collègues au sein du conseil, c'est de s'assurer que cette culture, cette éthique, qui, pour le répéter, n'est pas parfaite, mais qui est vraiment là et sensible, qu'on passe à nos successeurs. Ça, c'est notre priorité la plus importante. Et cette atmosphère morale mène à une situation où, pour la plupart, on a focalisé sur le long terme. Vous avez dit très gentiment que la HSBC a survécu la crise. Pas sans difficulté, il faut avouer, mais sans avoir à aller au gouvernement pour...
Pas de nationalisation, pas d'aide d'État,
etc. Nous restons totalement indépendants, nous restons rentables pendant toute la crise, etc., etc. C'est pas par hasard. Ça arrivait parce qu'il y a une focalisation sur le long terme. Et ce qui est vrai, c'est que je me souviens très clairement des conversations avec les investisseurs institutionnels, les années 2003, 4, 5, où on était sous la pression de leur part parce que nous n'avions pas leveragé la banque au niveau que d'autres banques l'avaient fait, parce que nous n'avons pas vendu des actifs, quoi que ce soit, dans les différents pays du monde, pour réaliser du liquidité, parce que nous avons continué à focaliser sur le long terme, sur notre stratégie et le développement de notre business model, qui est étroitement lié avec les conditions dans les pays où nous opérons. Et je puis vraiment dire que cette stratégie, c'était la conséquence de la conviction de mes prédécesseurs, en effet.
Et la vôtre.
Oui, elle.